et bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Lectus. Aujourd'hui, on parle de La Nuit des Temps de René Barjavel, écrit en 1968 tard l'époque. Mais première question avant d'enchaîner, Johanna, est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses, des grandes découvertes qui ont échappé à nos radars sur la connaissance de l'histoire, du passé, de la civilisation?
Ouais, franchement, quasi sûr que oui. Hein. On a découvert pas mal de trucs, mais je me dis, c'est pas possible. Même juste au niveau de l'espace, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore découvert. Et après, il y a aussi des milieux où on n'a pas dû découvrir des espèces ou des plantes encore. Donc moi, je dirais que oui. Et toi?
Moi, je te rejoins sur le fait que, effectivement, quand tu sais que la Terre, c'est 70% d'océan et 30% de continents, je me dis, il y a quand même des trésors enfouis, c'est sûr, sous l'eau. Ça, c'est sûr.
Ouais.
Après, de là à tout remettre en question, je sais pas. Mais il manque des, oui, il y a des choses qui manquent dans des petits trous dans notre histoire. Je pense que ça aiderait peut-être à les combler.
Alors, est-ce que du coup tu peux nous faire justement un résumé de La Nuit des Temps de Barjavel?
Oui, alors La Nuit des Temps de Barjavel, c'est l'histoire d'une expédition polaire qui a été menée en Antarctique, du coup dans la mission française. C'est tout l'Antarctique, c'est divisé en plein de petites zones pour plein de pays différents. Donc ça se passe en France,
la France.
Et donc on suit un petit groupe. D'explorateurs, il y a un ingénieur, un cartographe qui vont explorer la zone 612 et les radars vont faire surgir quelque chose de pas commun sous la glace, une structure, une construction humaine, on ne sait pas, mais en tout cas comme un escalier, je crois, quelque chose de bizarre. Et donc au début, ils gardent cette nouvelle pour eux, et puis après ils décident de la partager
au monde entier.
Au monde entier. Et donc c'est l'histoire justement de cette recherche, de cette quête. Allez, il y a pratiquement 1 kilomètre de glace, hein, je crois. Donc voilà, c'est l'histoire de cette recherche.
Et de qu'est-ce qu'ils vont trouver sous la
et
glace.
Et surtout de qu'est-ce qu'ils vont trouver sous la glace, effectivement. Ils vont trouver à la fois des choses, mais aussi des personnes. Tadadadam. On se retrouve tout de suite pour en parler.
Pour le début de l'histoire, on va se concentrer sur le personnage qui va être aussi le narrateur du coup dans tout le livre, qui est Simon, qui est le docteur en fait qui va être rattaché à cette expédition polaire sur la base Paul-Émile Victor qui est en Arctique. Comme l'a dit Justine dans le résumé, en fait l'équipe va découvrir des ruines sous la glace qui dateraient d'environ 900 000 ans, donc c'était il y a longtemps. Sauf que ça pose plusieurs questions. Justement, à cette époque, on pensait même pas qu'il y avait une vie. Enfin, on pensait que c'était encore les singes qui habitaient sur
Oui, je crois qu'ils font un petit parallèle avec les Australopithèques.
Ouais, donc, voilà.
En termes d'histoire, on en est là.
C'est ça. Et donc, comme ils font cette découverte qui est quand même incroyable, ils vont faire une réunion, entre guillemets, au sommet, je crois, à Sydney. Je sais plus où c'est, dans quelle ville, pour regrouper toutes les nations. Et savoir en fait s'ils entament une mission mondiale ensemble pour découvrir qu'est-ce qu'il y a sous cette glace. Et d'ailleurs, c'est là que le livre, peut-être, alors c'est pas tant le livre qui est problématique que peut-être l'auteur, qui je pense est un petit peu raciste, légèrement, puisqu'en fait les grandes nations se regroupent et il décrit vraiment, il y a 2 noirs, 2 jaunes, 4 blancs et 3 allant du café au lait à l'huile d'olive. C'est quoi cette description, quoi?
C'est vrai que bon, tout au long du livre, il y a des jugements de valeur, des appréciations, des raccourcis, des petits préjugés. Alors que ce soit hein, sur la couleur des gens, que sur les femmes, notamment.
Donc, on y reviendra. Hein.
Effectivement, il a un peu vieilli, je pense, ce livre en termes d'écriture. Alors après, c'est pas du tout pour excuser l'auteur, mais il y a quand même une dimension, cette dimension universelle qui est quand même dans le livre très présente. Le fait que tous les humains soient représentés, toutes les nations, etc., c'est quelque chose de très prégnant, mais un petit jugement de valeur quand même.
Oui, il y a des petites remarques où vraiment, ça serait écrit aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui publie ce livre.
Non, non.
Mais bon, voilà, c'est d'époque. Donc, ils se retrouvent tous à ce congrès pour savoir s'ils font une mission pour aller, en fait, découvrir ce qu'il y a sous la glace, puisqu'en fait, il y a un radar qui a capté un battement, et en fait, ça fait un peu des battements de cœur.
Oui, c'est ça qu'on dit. Oui, il y avait à la fois donc le radar qui fait...
le relevé topographique,
voilà.
Un peu.
Donc, il y a à la fois un relevé topographique, et aussi, ils arrivent à percevoir qu'il y a une radio-émission, je ne sais pas comment on dit, en tout cas, un message qui est envoyé depuis 900 000 ans.
Voilà, donc bah, toutes les nations se regroupent sur l'Arctique pour commencer le forage de la glace. Mm. Donc, comme l'a dit Justine, vu qu'il y a vraiment toutes les nations qui sont représentées, il y a une traductrice, mais c'est une machine en fait.
Oui. Mm.
Ça, c'était intéressant pour le coup.
Ouais.
Parce que du coup, la traductrice est vraiment en charge de permettre à toutes les nations de pouvoir échanger, quelle que soit leur langue, et ça traduit instantanément ce que la personne dit à l'oral.
Oui, avec oreillette et micro.
Voilà, et c'est traduit en français pour la plupart des personnes.
D'ailleurs, c'est intéressant par rapport à cette machine, la traductrice, parce que je pense que l'interprétation qu'on en a, elle a dû évoluer au fil du temps. On dit que c'est pas vraiment comme un ordinateur. On dit que c'est un super ordinateur dans le livre.
Oui.
Mais nous, aujourd'hui, je pense qu'on l'interpréterait plus comme une sorte d'IA.
Ah oui, parce que quand elle fait des traductions, elle donne aussi quand même un avis et du contexte. Donc, c'est-à-dire, oui, alors je pense que la personne a dit ça, mais la traduction n'existe pas vraiment dans sa langue ou ce genre de choses. Donc oui, c'est un peu un début d'intelligence artificielle, mais pour la parole. Et donc on nous dit voilà qu'il y a une grande base de vie en fait qui est construite sur le pôle pour que bah, les équipes puissent s'installer. Mais tu vois là c'est pareil, j'ai noté tellement confortable dans la base. Enfin j'ai marqué confort dans la base si parfait qu'on avait même pu accepter la présence des femmes.
Oui.
Genre en mode la femme est trop douillette pour venir dans cette zone. Du monde, et du coup...
Les années 60, hein.
Oui, voilà, non, mais bon, il y a plein de trucs comme ça, je me suis dit, oh là là, bon, ça a un peu mal vieilli, quoi.
Oui, oui, oui.
Mais ils choisissent aussi de faire une retransmission en direct à la télé et à la radio de l'opération, puisque ça concerne la totalité des nations.
Mm.
Donc c'est pour que les personnes puissent suivre, je crois que c'est en direct. Hein.
Ouais, et ça c'était hyper intéressant, je trouvais, en mode télé-réalité.
Oui,
il avait anticipé un truc de fou, parce que bah, toute l'avancée des travaux, du forage, vont être toutes les découvertes, les petites découvertes vont être retranscrites en direct, et en direct des avancées, dans différents pays, avec différents publics, parce qu'il y a des petites apartés dans le livre où...
C'est les familles qui
voilà.
suivent...
On va être dans une famille en France, on va suivre un homme à Miami, une femme au Japon...
Ouais.
Voilà.
Pour leur demander bah, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez, machin, etc. Oui, il y a des petites coupures qui permettent aussi d'avoir le côté, entre guillemets, des badauds, donc c'est-à-dire des gens qui ne font pas partie de l'opération scientifique. C'est vrai que ça, c'était pas mal, du coup.
Et même, il y a un peu comme le public va avoir son avis, tu vois, le vote du public...
Oui.
Qui va décider donc ou aider les scientifiques à mener leur recherche. On va leur demander d'aller écrire au gouvernement, d'aller influencer certaines décisions.
Ça fait un peu Hunger Games, tu sais, quand ils envoient des cadeaux dans l'arène pour aider les personnes qui veulent voir gagner. C'est un peu ça. Parce que, bon, malgré le fait que toutes les nations se soient mises d'accord pour mettre en commun leurs efforts et du coup leurs moyens, que ce soit financiers ou matériels, et ben il y a quand même un peu la guéguerre de se tirer la couverture à la nation, quoi.
Mais, oui, parce qu'on voit, parce qu'évidemment les États-Unis en font partie, la Russie aussi, dans les années 60, avec la guerre froide, on sent vraiment le clivage entre l'Est et l'Ouest, hein, clairement.
Ouais. Et t'as pas trouvé, toi, que les personnages étaient quand même des gros clichés ?
Oui, si, si.
C'est vraiment des gros clichés de leur pays. L'américain, il est énorme, il jure beaucoup.
Oui, oui, oui.
Enfin, voilà, après...
Il fait un fonceur.
C'est ça. Et après, celle de l'URSS, du coup, Leonova, c'est vraiment la petite blonde scientifique, qui a l'air un peu frêle, mais qui a un super caractère.
Oui.
Voilà,
mais en même temps qui martèle l'idéologie marxiste.
Oui, à fond.
Ouais.
Bon, c'est un peu des clichés, les personnages sont pas nécessairement bien travaillés de ce côté-là, j'ai trouvé, mais bon, après...
Ou alors c'était fait exprès, bon, c'est peut-être un parti pris de l'auteur, mais...
Oui, bon après, c'est pas grave, les clichés,
on
n'a rien contre.
Mais très peu de nuances dans ce livre en général.
Ah oui, non, vraiment pas beaucoup, quoi. Donc, ils vont commencer à tailler la glace, et ils vont accéder à une première salle. Je sais pas si tu te souviens.
Oui, alors ils creusent le fameux puits de pratiquement 900 mètres.
Ouais, pour accéder du coup, le but c'est vraiment d'accéder à ce truc qui palpite en fait sous la glace.
Et ils arrivent donc à une première salle où, parce que le radar avait émis entre guillemets donc une construction humaine avec un escalier, avec des temples. Il y a même au début ils trouvent un petit oiseau et puis après ils découvrent d'autres animaux fantastiques, exotiques. Et donc mais malheureusement très éphémères entre guillemets puisque dès que ils vont être exposés, ces éléments vont être exposés à l'air libre, ils vont tout simplement disparaître, se dissoudre. Donc premier échec, ça c'était aussi intéressant parce que bien sûr retransmis en direct et ouf, super l'expédition
Oui, on met
finalement
des millions et
ouais.
puis ils arrivent à enfin, ils ressortent rien du tout.
On promet quelque chose de sensationnel et puis au final on sait pas c'est tout détruit enfin il y a moins cet aspect
Mais par contre, moi vraiment,
sensationnel.
quand je l'ai lu la première fois et que on arrive sur la présentation de cette salle, avec ça fait vraiment des trucs qui sont coincés dans la glace, mais très hétéroclites. Donc, c'est-à-dire il y a des objets, des animaux, comme l'a dit Justine, qui peuvent être fantastiques ou enfin qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je me suis dit, mais what the fuck, quoi? Vraiment, c'est trop bizarre comme présentation. Tu te dis à quel moment tu vas trouver ces trucs sous la glace? Trop bizarre. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont trouver vraiment en dessous, tu vois? Bon, c'est vrai que ça s'est bien fait. Donc, ils continuent à creuser, creuser. Et après, ils vont tomber sur du sable.
Ouais, de la roche, du sable, et puis après une sphère dorée.
Oui.
Dorée, mais vraiment dorée, faite d'or.
Ouais.
Et avec un espèce de couloir qui s'est effondré. Enfin, d'ailleurs, il y a un accident d'ailleurs d'effondrement dans ce couloir. Mais bon, on suit la progression de la foreuse. Et d'ailleurs, par rapport au livre, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que l'intégration de plans et de schémas. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Dans les romans en règle générale, je sais pas si c'est propre à la science-fiction ou pas, je connais pas, mais en tout cas c'est la première fois que moi je voyais. Alors, on peut avoir des cartes ou des annexes
Oui.
dans des livres, genre dans, je cite la fantasy, mais effectivement dans des mondes imaginaires pour essayer de se projeter dans l'univers. Mais là, vraiment intégré au récit, c'était la première fois que je voyais ça comme ça.
Ben, je pense que comme du coup c'est écrit du point de vue de Simon qui est le médecin, ben lui du coup il a peut-être entre guillemets c'est son journal de bord. Donc en fait il met ses trucs de l'opération, je sais pas. Mais je pense pas que ce soit souvent qu'il y ait des trucs comme ça. Enfin, moi, j'ai vu, comme toi, très peu de livres avec des pièces en plus, genre des plans, des annotations, des trucs comme ça. Bon, là, je pense que ça servait plutôt bien le propos parce que je pense que ça a été mis aussi parce que c'est un peu difficile de s'imaginer à quoi ça ressemble. Parce que même si c'est bien écrit, eh ben, tu dis, attends, mais comment c'est foutu le truc, je comprends rien. Parce qu'en plus, les règles d'architecture classique n'ont pas l'air de s'appliquer du coup dans cet environnement. Donc bon, le plan fait plutôt sens
Ouais, bah
à ce
pour faire un
niveau-là.
parallèle, je sais pas comment tu l'as ressenti toi, mais sur l'univers et la manière dont c'est décrit, moi je voyais quelque chose un peu de Dali, le
Ah,
peintre.
clairement.
Ah, ok,
Pareil.
tu voyais un peu le
Pareil,
même,
pareil.
ok.
Oui, très surréaliste,
Oui.
vraiment plein plein de choses de saugrenues dans l'espace et tout. Ah ouais, pareil, vraiment. Donc c'est pour ça que je te dis la première scène, quand vraiment dans la description du livre, je me suis dit, oula, ok, c'est bizarre. Mais oui,
Bah où on va?
c'est ça, c'est vraiment ça. Mais après, oui, il y a toujours, moi, tu vois, quand ils ont découvert la boule en or, là, j'ai noté Léonova, donc qui est la correspondante entre guillemets de l'URSS, demande ce que c'est, et Hoover, qui est l'Américain, lui dit, bah, comment ça, vous savez pas ce que c'est, vous qui êtes une femme? Parce qu'en gros, c'est une boule en or, et genre. Tu vois, elle est vénale et du coup, elle devrait forcément savoir ce que c'est et tout. T'es là. Oh, il est lourdingue. Vraiment, ce personnage-là, antipathique. Et donc, ils vont passer plusieurs semaines à percer cette boule en or. Et ils vont finir par réussir à entrer dedans, il me semble. Mais c'est toujours pas de là que provient vraiment
Le
le signal.
signal.
Donc, ils vont découvrir des salles avec des objets. Enfin, il y a.
Oui, une salle avec pareil encore de l'architecture, des colonnes et une construction au centre en forme d'œuf
Oui.
qui est complètement close hermétiquement et a priori, c'est là d'où émanerait le signal.
C'est ça. Et bah, finalement, ils vont continuer de forer. Donc, après, dans le récit, là, on passe. C'est vrai qu'on ne le dit pas trop, mais il y a vraiment toute cette tension de. Bah, faut trouver les moyens. Parce que, du coup, comme c'est des matériaux qui sont inconnus, bah, ils font des tests, mais ça marche pas. Du coup, ils doivent toujours trouver des nouvelles solutions pour percer ce métal qui est de l'or, mais pas de, enfin, visiblement pas l'or que nous on connaît dans notre monde. Donc c'est pareil, dès qu'ils veulent faire une opération, ils doivent s'en référer à toutes les autres nations pour avoir le droit de commencer à faire quelque chose. Donc il y a quand même toute cette lenteur administrative de bah ok, je veux faire ça, mais il faut que je demande l'autorisation. Donc il y a beaucoup de passages où c'est vraiment juste de l'administratif, de les nations sont pas d'accord aussi.
Oui.
Il y a aussi beaucoup de ben non, moi je ferai pas ça comme ça, ben moi je ferai ça. Et après, ben, il faut qu'ils trouvent un compromis, quoi.
J'allais dire du blabla, mais c'est oui, des explications effectivement sur devant. Face à un problème, on invente d'autres technologies.
Oui.
Face à effectivement des, on nous dit c'est un matériau très particulier. Donc pour tout ce qui est science-fiction, effectivement là on a ce côté technologie un peu inventé, tout ça en dehors du fait que la situation soit bizarre.
Oui.
Et comme
déjà
tu disais,
au-delà de ça.
Oui, au niveau des tensions entre les pays, quand ils arrivent à la sphère dorée. C'est vrai qu'il y a toute une partie, je sais plus quel pays lance, je crois que c'est le Pakistan, qui dit non mais les gars, le mystère c'est bien, mais là on a sous nos pieds je ne sais plus combien de tonnes d'or.
Oui.
En fait, ça pourrait clairement
endiguer
le monde.
Oui, endiguer la fin dans le monde et tout.
Du coup, la question elle est là, c'est est-ce qu'on va jusqu'au bout du mystère ou alors est-ce qu'on se contente de ce qu'on trouve voilà.
Ah, franchement, moi à leur place, je continue aussi. Hein.
Bah, pour le coup, effectivement, ils vont
continuer. Oui, mais c'est vrai que je l'avais noté aussi qu'il y avait beaucoup d'or sous la glace et que ben ils aimeraient bien il y a des questions qui vont se poser sur s'accaparer en fait les richesses, ça fait un peu pilleur de tombe, enfin là clairement c'est ça. Et finalement ils vont quand même réussir à percer du coup cet œuf,
l'œuf au centre,
et ils vont trouver
ils vont trouver deux corps cryogénisés. Donc là pareil, comme il fait moins 180 à l'intérieur, proche du zéro absolu, il a fallu inventer des nouvelles technologies,
des combinaisons.
Voilà, on a fait appel donc à la presse et aux journalistes qui posaient des questions en direct sur est-ce qu'on ouvre l'œuf ou pas, parce que du coup on sait, enfin est-ce qu'on préserve ce qu'il y a dedans, est-ce que du coup on le détruit entre guillemets, et toutes ces questions là qui se posaient
du coup par rapport à ces deux personnes. Et puis finalement, Simon, donc, qui est, on le rappelle, la personne qui écrit, entre guillemets, le bouquin, enfin,
l'histoire, qui nous la raconte.
Voilà, qui la raconte, et qui est médecin, lui, il va proposer de les réanimer.
On découvre un homme et une femme, donc
lequel
on réhabilite en premier.
C'est ça. Donc là, il y a pas mal de questions, puis là, c'est pareil.
Sexiste à fond.
Il y a des remarques. Il y a vraiment, le cerveau de l'homme est super en poids et en volume. Du coup, peut-être qu'il vaut mieux commencer par lui si on veut avoir des réponses à nos questions.
Oui, si on veut se faire la main, ce serait bien de le faire sur une femme, comme ça on est prêt pour l'homme.
Oui, et après, il y a aussi, moi j'avais noté qu'il y a un des personnages qui disait, non mais en fait, elle est trop belle, donc est-ce que ça serait pas plus important que le savoir et plutôt avoir une belle femme de réveiller? T'es là, putain.
Et par rapport, oui, à ça, cette beauté, c'est vrai qu'au départ, comme on a le point de vue de Simon, avant même qu'on sache ce qu'ils vont découvrir sous la glace, en l'occurrence deux êtres humains, il raconte un peu, il écrit au passé son histoire, comme quoi ça, la découverte, elle est déjà faite.
Oui, et puis il y a le prologue de début où on sait que...
Il a perdu quelqu'un, l'être aimé, et là pareil, il rentre dans l'œuf, il voit la femme, et donc là tout de suite, il est amoureux, elle est trop belle.
Oui, elle a des proportions parfaites, on nous dit, et elle est nue.
Oui, bah, les deux, oui.
Donc c'est vraiment deux corps, entre guillemets, parfaits. Et donc, ils savent pas trop est-ce que on doit réveiller l'homme, la femme, etc. Et finalement, ils vont choisir la femme parce que son corps est en meilleur état. Parce qu'ils s'aperçoivent en observant celui de l'homme qu'il a pas mal de plaies, en fait. Et que peut-être, finalement, le réveillant, peut-être que ça va mal se passer. Donc finalement, ils choisissent de réveiller la femme. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit avant, mais tu sais, tout à l'heure, il y avait le Pakistan qui disait « Oui, il y a beaucoup d'or et tout, peut-être que ça serait bien de l'utiliser pour arrêter la faim dans le monde et tout. » Et comme l'ONU supervise du coup cette mission, l'ONU, ils vont rédiger 5 points pour éviter les querelles en fait entre les pays. Donc aucune nation ne peut réclamer l'or, il restera là où il est. Ou alors, sinon ils pourront créer une monnaie internationale basée sur cet or. Et l'ONU reconnaît ne pas avoir de compétences pour le couple en hibernation. Donc c'est-à-dire que vraiment, ils se dégagent en mode, non, nous, on prend pas de décision, quoi. Et aucune nation n'aura le couple. Donc voilà, personne ne pourra dire bah, ils sont à nous ou pas. Et toutes les nations auront les mêmes infos.
Oui.
Donc, c'est-à-dire, tu peux pas cacher une découverte à une autre nation pour éviter justement de s'accaparer un peu la découverte. Donc voilà, du coup, ils ont posé des bases de ce côté-là. Et bah, ils vont commencer par réveiller la femme. Donc, ils vont la réchauffer progressivement pour qu'elle reprenne
connaissance. Oui, il y a tout un protocole, etc. C'est vrai, il y a quand même aussi une comparaison Adam et Ève qui dit, voilà, c'est les deux êtres humains choisis pour porter l'héritage de toute leur civilisation.
Oui, donc ils se disent, bah, forcément, s'ils ont été mis là, c'est qu'ils doivent être très importants. Donc, ils ont forcément des qualités qui doivent être exceptionnelles pour avoir été choisis. Donc, ils font super gaffe quand ils la réveillent. Et mais est-ce qu'elle va se réveiller?
Elle se réveille.
Elle se réveille. Et qu'est-ce qui se passe du
progressivement,
coup?
mais elle se réveille et elle ouvre les yeux et elle est absolument terrorisée
Bah oui.
par ce qui se passe autour d'elle. Et alors, je ne sais plus si elle retombe dans les pommes ou elle fait semblant de. Au début, je crois qu'elle tombe dans les pommes et
Oui, c'est
après, elle fait semblant.
Oui, elle ne veut pas interagir.
Non, il y a un refus directement.
Bah oui, d'interagir avec ces personnes qu'elle ne connaît pas. Et puis en plus. Enfin, c'est vrai que tu te dis, tu t'endors à un endroit à un moment et tu te réveilles et il y a des nouvelles personnes que tu connais absolument pas. T'es nue, t'es vraiment à la vue de tout le monde. Donc bon, moi je me mets à sa place. Pareil, je serais pas hyper rassurée quoi.
Et au final, elle trouve dans Simon, enfin voilà, un interlocuteur. Elle a confiance, elle apprend à avoir confiance en Simon, il essaye de la rassurer, etc. Bon, il y a une petite. Une complicité entre eux qui commence à naître.
Oui, parce que
oui,
on ne l'a pas dit, mais du coup, c'est pareil. Ils ont trouvé des objets qui appartiennent du coup à ce couple. Donc, c'est pareil. Là, ils font des mesures scientifiques, ils font des prélèvements, etc. pour dater un peu tout ça et voir s'ils connaissent les matériaux. Bon, souvent, ce n'est pas le cas. Mais ils ne savent pas du tout à quoi servent les objets qu'ils trouvent. Et surtout, Elia, la femme, on ne sait pas encore comment elle s'appelle normalement, elle porte une bague en or, voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. Et finalement, donc Simon, comme tu l'as dit, va se présenter à elle, et elle va leur dire son prénom, puisqu'elle comprend, parce qu'ils ne parlent pas la même langue, ça, on le comprend direct, et elle s'appelle Elia. Et Elia, peut-être qu'elle a faim et qu'elle a soif.
Ah oui, alors ils essayent de lui donner à manger, essayent de lui donner du lait, de l'eau. Il n'y a rien qui marche, elle est attirée par rien du tout. Et se lance un peu une course contre la montre, parce que au fil des jours qui passent, elle ne s'alimente pas, elle refuse de s'alimenter, elle fait que répéter deux ou trois mots en boucle, et ils comprennent que ça va être la clé pour déchiffrer à la fois son langage, et aussi pour décrypter, lui sauver la vie aussi,
accessoirement. C'est bon. Et il y a un des personnages qui vit sur la base, qui s'appelle Lucos, qui est linguiste, et c'est lui qui a créé la traductrice dont on a parlé au début. Et donc, pareil, là, du coup, il va lui ingurgiter parce qu'ils ont trouvé dans les objets des sigles, des livres, entre guillemets,
C'est
des
parois.
Boîtes à son aussi.
Oui, il y a une espèce de cube qui projette des images, mais toutes les parois de l'œuf, sont écrites de textes tout minuscules.
Oui, c'est vrai. Donc, du coup, il va servir de ça pour décrypter le langage de Elia. Et au final, ils vont comprendre que Elia, elle demande mange-machine.
C'est ça.
Et sauf que, ils comprennent pas, ils sont là, mais c'est quoi mange-machine? Enfin, et finalement, ils vont lui apporter des objets qu'elle avait avec elle, et dont une petite boîte. Et en fait, elle va s'en servir pour se nourrir. C'est un espèce de cube qui lui donne des capsules. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle en prend, elle reprend vraiment vie. Et au-delà de la nourrir, on a vraiment l'impression que ça la guérit. Donc là, pareil, les scientifiques, ils sont là en mode mais imaginez si on avait ça pour la faim dans le monde, pour les gens qui seraient malades, etc. Et ils vont commencer à vouloir lui poser des questions, sachant que maintenant, ils peuvent échanger avec elle, puisqu'elle a. Enfin, ils ont décrypté en grande partie son langage.
Oui.
Donc elle a une oreillette aussi pour échanger avec eux. Et en fait, elle va dire d'où est-ce qu'elle vient. Elle pense qu'en fait, les personnes avec qui elle est, des gens de son pays qui est Gondawa.
Oui.
Ou des gens de Enisorai. Et en fait, non.
En fait, non, on n'est ni l'un ni l'autre. Et le récit bascule. Alors, autant on avait le point de vue de Simon sur qui nous expliquait un peu comment s'est passé le forage et la découverte. Autant il y a toute la seconde partie du livre, c'est vraiment Eléa qui raconte son histoire et là on
Son monde.
vraiment, ouais, son monde à elle. Et là on rentre vraiment dans la science-fiction, on va dire pure et dure,
Ah oui.
où bah, effectivement c'est une civilisation alors qui date du passé, mais ultra avancée, qui avait découvert donc l'équation de Zoran, qui permet de créer de la matière à partir de l'énergie, enfin ils avaient
Universel,
universel, enfin il y avait
oui.
plein de trucs comme ça, des procédés ou des machines, ou enfin ils maîtrisaient plein de choses. Et donc elle va nous raconter un peu son histoire et surtout bah, ce qu'elle a vécu sur les dernières heures, parce qu'on lui demande bah, comment elle est arrivée là, etc. Elle savait pas grand-chose à part ce qu'elle a vécu, elle, des dernières heures de son existence et de son monde, en l'occurrence.
Oui, d'ailleurs, quand elle se réveille, on lui pose la question. Elle veut savoir depuis combien de temps elle dort. Et au début, les gens veulent pas lui dire parce enfin, vraiment, là, t'es endormie depuis 900 000 ans. C'est énorme parce qu'elle pensait qu'elle était endormie depuis quelques jours. Et du coup, quand ils lui apprennent ça, en fait, elle a vraiment un cri de détresse et elle crie Paikan. Paikan. Je crois que c'est
Oh.
Paikan.
Bah, oui, c'est écrit Pycon, mais je sais pas
Paikan.
comment ça se dit exactement.
Et en fait, elle va faire un malaise ou elle va pas, non, après elle va aussi vouloir s'enfuir dehors, chose qu'elle fait. Bon, on rappelle qu'elle est nue et
Et en
qu'ils sont,
Antarctique.
voilà, en Antarctique. Donc, bah, ils se disent, non, c'est bon, elle va crever. En plus, elle était pas en super forme et tout, elle va avoir des engelures et tout. Et en fait, rien,
Encore
rien du tout.
résistant.
Vraiment, hyper résistant. Et surtout, ce cube, en fait, qui lui donne des gélules, elles ont l'air vraiment incroyables. Donc ça va beaucoup intéresser les chercheurs, ils vont vouloir comprendre comment marche sa machine à manger. Et en fait, ils lui apprennent aussi enfin, Eléa leur explique que la personne qui est avec elle, c'est Koban, qui est le plus grand savant du monde d'Awa, et que, en fait, si ils le réveillent, ils pourront avoir des réponses à leurs questions. Parce qu'elle, elle est pas scientifique, en fait.
Non.
Donc, ils vont décider de réveiller l'homme, pour justement avoir des réponses et compléter un peu du coup ce que Elia raconte. Et d'ailleurs, elle va commencer à raconter grâce dans ses affaires, elle retrouve des couronnes, je sais plus comment c'est.
Ouais, il disait des anneaux dorés, enfin,
Ça m'a fait un peu penser la série. Ah merde, ça va pas me revenir. Pas Troisième œil, mais enfin, ça va pas me revenir, tant pis. Mais du coup, c'est vraiment des casques de réalité augmentée,
oui,
quoi.
c'est ça.
En gros, c'est ça. Et ce qui lui permet, en fait, elle va le mettre sur Simon. Et Simon va pouvoir voir littéralement ce que elle a vu. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est trop bien. Et bah, elle va commencer à raconter sa vie.
Oui, sa vie, son histoire. Donc on comprend en gros qu'il y a eu une grande catastrophe il y a 900 000 ans dans le monde dans lequel elle vivait. Et en fait, on est dans un récit post-apo. Enfin,
Ah
elle
oui.
vit l'après. Mais donc on va comprendre ce qui s'est réellement passé dans son monde et dans sa vie. Bon, elle commençait à nous raconter, c'est là qu'on bascule dans le récit et qu'on rentre vraiment dans l'imaginaire. Alors, est-ce que tu te souviens de son monde, des particularités? Je me souviens effectivement des... Alors ils disent qu'ils sont élevés jusqu'à 7 ans, après ils sont désignés, c'est-à-dire qu'ils sont, on va dire, couplés avec une autre personne.
Oui,
D'ailleurs,
avec.
c'est toujours un homme et une femme.
Oui.
Donc, ils sont accouplés pour la vie, mais c'est un ordinateur qui, a priori...
Bah, fait des calculs de proba parce que, en fait, dès qu'ils naissent, ils ont une bague qu'ils appellent clé. Et en fait, cette clé, elle renferme, bah, entre guillemets, tout ce qui fait d'eux une personne. Et l'ordinateur va faire matcher, du coup, les clés avec une autre personne pour trouver, en fait, l'âme sœur.
Oui,
C'est un
vraiment
peu ça, hein,
la
l'amplitude.
rencontre parfaite qui fera l'union, parce que la clé, donc c'est le savoir, c'est tout ce qui est leur gène, leur caractère,
Qu'ils
leur
aiment.
potentiel,
Oui.
enfin vraiment, ça comporte tout. Et donc cette grande machine va trouver la personne la plus adéquate
Oui, et puis après, je me
pour
souviens
partager sa
que
vie.
du coup, dès qu'ils ont 7 ans, en fait, ils sont mis de. Enfin, ils font une grande réunion où du coup, ils font se rencontrer ces couples. Et après, bah, du coup, ils vivent ensemble dans la famille de l'un, dans la famille de l'autre, pour justement prendre les mêmes goûts, prendre les mêmes habitudes. Bon, alors ça, j'étais un peu partagé sur le fait de pourquoi il faudrait avoir les mêmes goûts pour forcément être en couple, tu vois. Enfin, c'est aussi la différence de la richesse des fois qui fait que, mais bon, bref. ça n'a pas été présenté comme ça, mais bon, c'est pas très grave. On comprend vraiment du coup que tu trouves ton âme sœur et que c'est l'ordinateur qui a choisi pour toi. Et que y a quand même des gens qui posent la question, mais est-ce que des fois ça marche pas? Ce qui arrive. Et il parle aussi de est-ce que les gens sont malheureux? Et elle dit, ben non, je sais plus comment elle le
Tout est
présente.
fait pour que non.
Oui, pour que ça se passe bien dans tous les cas. Et puis, l'univers dans lequel ils évoluent, c'est vraiment, c'est très fantasmagorique. Comme tu l'as dit, c'est vraiment, pour moi, ça fait vraiment tableau de Dali mélangé à un truc futuriste. C'est beaucoup d'animaux, tous les gens vivent, enfin...
C'est un peu Avatar, il y a vraiment
oui.
une connexion avec la nature, genre Ewa et tout ça. Enfin...
Oui, c'est exactement ça. Et il y a pas mal de questions aussi sur le revenu universel,
ouais.
Sur le travail, c'est-à-dire que t'es pas obligé de travailler, mais du coup t'as une rétribution égale à ce que t'apportes à la société. Et si vraiment tu veux pas travailler, t'as quand même un revenu minimum pour te permettre de vivre et des petits extras.
Oui,
donc,
donc
vraiment,
leur bague où il y a le crédit, ils
c'est
peuvent
ça.
s'acheter des choses, tout ça, oui.
Voilà, la bague, c'est vraiment la base de leur vie, en fait, sur Gondawa.
Et donc ça, c'est pour, on va dire, le quotidien des personnes lambda, mais si on prend un peu plus de recul, on comprend qu'on est toujours sur la Terre, que c'était la Terre il y a 900 000 ans,
oui.
Et qu'en gros, elle est divisée en deux grandes parties. Il y a le Gondawa, donc au sud.
D'où vient Eléa.
Voilà. Et son désigné est Paikan, donc on apprend aussi que du coup, c'est lui.
Oui.
Dont elle a créé le nom, et au nord c'est Enis Horai, c'est une autre nation. Alors les deux nations vivent de manière très différente. La population se renouvelle mais ne croît pas.
En fait ils ont choisi l'équilibre, donc c'est-à-dire qu'on nous explique aussi que la bague en fait sert de moyen de contraception, et donc si t'enlèves pas ta bague en fait pour faire l'amour avec la personne avec qui t'a été désignée, tu n'as pas d'enfant. Donc du coup voilà, c'est vraiment un acte qui est réfléchi. À l'inverse, Enis Horai, eux, ils sont plus sur le fait de pulluler. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de restrictions à ce niveau-là. Donc, mais par contre, ils ont accès aux mêmes informations. Ils ont l'équation de Zora. Donc, c'est pareil. Eux, c'est voilà, vraiment le but de produire beaucoup, de faire beaucoup. Alors que Gondawa, c'est vraiment l'équilibre parfait de bah, on consomme vraiment que ce qu'on a besoin. Donc, sur ça, ils sont différents.
Oui. Et on nous dit qu'il y a eu déjà plusieurs guerres entre eux.
Bah, trois guerres.
Ouais. Que voilà, c'est effectivement deux modes de vie pas contradictoires mais différents et qui engendrent des tensions. Donc il y a déjà eu plusieurs guerres et notamment nucléaires. Donc ça, je pense aussi, c'est relatif aux années 60,
oui,
à la peur de voilà
ouais.
d'une guerre totale, une guerre nucléaire. Et une partie de la Terre a été dévastée. Donc le Gondawa vit en sous-sol et Enis Horai vit en hauteur, dans des villes empilées. Alors que le Gondawa vit dans les profondeurs de la Terre. C'est d'ailleurs pour ça que on a retrouvé les vestiges de leur civilisation dans le sous-sol. Donc voilà, on nous explique ça, et comme quoi bah, le climat est tendu en ce moment, qu'il y a il y a des tensions entre Gondawa et Enis Horai, et que Gondawa a développé une arme ultime, une arme solaire, qui, si elle est déployée, détruirait toute vie sur Terre.
Oui, parce qu'en fait, lors de la dernière, de leur troisième guerre mondiale, ils s'étaient mis d'accord pour ne plus utiliser les missiles nucléaires, parce que ça avait fait vraiment trop de ravages, ça avait pourri le sol, enfin voilà. Et sauf que, bah, visiblement, Enis Horai, pour contourner un peu le problème, ils sont en train de créer justement cette arme ultime. Donc, bah, forcément, le Gondawa se sent menacé. Donc, ils vont commencer à un peu faire un branle-bas de combat pour se défendre. Donc là, on va arriver au moment du récit où Eléa, en fait, on découvre sa vie avec Paikan. Donc c'est-à-dire qu'on découvre leur appartement, où ils vivent, qu'est-ce qu'ils font de leur journée. On découvre un peu comment fonctionne la civilisation de laquelle elle vient. Et c'est dans ce contexte aussi qu'on découvre que ils vont devoir partir en guerre, visiblement.
Alors oui, se mobiliser, faire partie de l'armée. C'est une civilisation qui maîtrise aussi le voyage dans l'espace. Donc
ouais.
Ils ont conquis la Lune. On sait qu'il y a déjà la guerre sur la Lune.
Oui, c'est vrai qu'on nous dit qu'il y a eu la guerre sur la Lune, et que d'ailleurs les Noirs, les personnes de couleur à la peau noire, viendraient de la Lune.
De Mars.
Ah, c'était de Mars. Ah oui, les bergers de Mars.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Pardon, je confonds. Mais voilà, qu'en tout cas, Mars a déjà été visité. Et la Lune aussi, on nous dit que, en fait, comme on voit les souvenirs d'Eléa, en gros, ils retranscrivent en direct. Non, d'ailleurs, ils mettent un petit délai parce qu'ils disent bah non, on peut pas tout montrer parce que la montre vraiment
C'est vrai.
elle a pas de filtre, donc elle peut montrer des moments intimes qu'elle passe avec son amoureux. Donc ils ont dit oh, attends, on va pas montrer ça à tout le monde. Et du coup, je ne sais plus où je voulais en venir. Bon, c'est pas très grave.
Et qu'on voyait la lune avec des prairies, avec de
Voilà,
la végétation.
c'est ça, exactement. Et qu'il n'y avait pas encore ces gros cratères.
Et oui.
Donc du coup, ça serait l'explication de pourquoi il y a des cratères sur la Lune, parce qu'il y a eu la guerre de la Lune. Donc bon, voilà, ils ont déjà essuyé pas mal de guerres, et surtout, ça ébranle un peu les consciences des scientifiques, parce que du coup, Elia leur explique que finalement, donc il y avait ces vies en fait sur d'autres planètes, que finalement il n'y a pas cette planète, il y en a 12
Oui, dans le
dans le
système
système.
solaire, ouais.
Voilà. Qu'est-ce qu'ils apprennent d'autre? Que la Terre a bougé de 40 degrés
D'inclinaison.
d'inclinaison, qu'avant elle n'était pas comme elle est aujourd'hui. Donc voilà, ils se confrontent vraiment à toute l'évolution humaine. Ça remet en cause vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et vraiment, du coup, ils suivent avec attention ce qu'elle raconte, quoi.
Oui. Et donc, au vu de ces tensions entre les deux pays, Gondawa, qui est dirigé, alors il y a un gouvernement, mais il y a surtout une université qui prend beaucoup de place, qui dirige un peu, qui dirige pas parce que elle est plutôt dirigée, enfin, elle est plutôt son, enfin, je vais y arriver. C'est le savoir qui l'intéresse avant tout. Donc, elle n'est pas, justement, elle est contre la guerre avec Enisorai. Et donc Coban, le scientifique, est censé être cryogénisé à côté d'Eléa dans l'œuf. Donc, et le dirigeant de cette université, c'est lui qui a mis au point donc le théorème de Zoram, donc sur l'énergie universelle et tout ça. Et pour protéger le savoir et de Gondawa et son histoire, ils ont décidé justement de construire une capsule, donc la fameuse sphère dorée et l'œuf, dans lequel reposeraient donc un homme et une femme pour poursuivre l'héritage de Gondawa au cas où donc toute la Terre serait détruite et qu'il faudrait potentiellement user de l'arme solaire. Et donc, les machines l'ont désigné Coban comme représentant homme, et Eléa faisait partie des 5 femmes retenues pour du coup être
Bah, la compagne,
la
hein.
compagne, ouais,
Sauf
de
que
Coban.
ça lui plaît pas du tout, parce qu'elle est vraiment fusionnelle avec Baikan, qu'elle veut pas partir sans lui, parce qu'ils sont vraiment... Bah, c'est son âme sœur. Donc elle se dit, mais à aucun moment je vais aller avec ce vieux gars pour me reproduire et repeupler l'humanité, quoi. Parce que c'est ça, hein, l'objectif. Hein.
Oui, ou même être séparée. Enfin, à chaque
Oui.
fois, elle martèle, j'appartiens à Baikan, j'appartiens à
Oui, voilà, c'est vraiment... Ils sont
Baikan.
fusionnels tous les deux. Et donc ils vont essayer de trouver une solution pour se soustraire du coup à cette obligation, parce qu'elle veut pas aller en fait dans cette capsule. Et je sais plus pourquoi les autres elles peuvent plus. Il y en a une qui est morte.
Ouais, une qui est pas là, enfin
Ouais.
qui est trop loin, qui arriverait trop loin, il y en a une qui est enceinte.
Ah oui, du coup.
Ouais, et du coup ça tombe sur elle, quoi.
Ouais. Donc un peu pas de chance. Mais bon, donc ils vont essayer tous les deux avec
De s'enfuir.
de Paille, voilà. Et sauf que ça va pas très bien se passer, quoi.
Ben, ça va pas très bien se passer parce que il y a déjà la guerre, a priori, qui arrive très très vite,
Ouais.
et la répression, surtout des policiers. Et donc le fait qu'ils bloquent aussi leurs clés, donc ils n'arrivent pas à atteindre le parking, là où il y a leur voiture qui leur permettrait,
De
voiture
s'enfuir.
volante qui
Oui.
permettrait de s'enfuir, donc ça
Ouais.
ils sont bloqués. Après la répression de la population dont une partie refuse la guerre, donc il y a des manifestants, tout un affrontement entre la police, les manifestants, la police qui en vient à tirer sur la manifestation. Et en fait, ils sont secourus par un marginal.
Oui, je me souviens, c'est des gens qui
Des hommes
habitent,
gris.
oui, voilà, des hommes gris, parce qu'en fait, donc comme c'est une ville souterraine, et ben en fait, il y a des gens qui vivent dans les boyaux souterrains, entre guillemets, oui, ils vivent vraiment en dehors de la civilisation, et ils vont choisir de les sauver, parce qu'en plus, comme Elia est super importante, il y a des avis de recherche placardés sur tous les écrans de toute la ville. Et comme elle est très belle, vraiment, on ne peut pas oublier. Et puis elle a des yeux bleus, je crois, vraiment magnifiques. Donc les gens la reconnaissent et la balancent quand elle essaie de s'enfuir. Donc finalement, il y a cette personne qui va les aider, et ils vont passer un moment avec elle.
Oui,
Et
elle va les aider à sortir. Ils arrivent à
oui,
sortir au final
de la ville.
voilà, du souterrain. Ils arrivent à rejoindre la surface. Et quand ils arrivent donc à la surface, vraiment la guerre est à leur porte. Il y a les vaisseaux d'Enisorai qui commencent à investir le Gondawa. Donc ils passent un dernier moment ensemble. Et au final, Paikan décide d'endormir Eléa et
À
de
la
la mener à
capsule.
Koban.
Parce qu'il se dit il vaut mieux la sauver elle plutôt qu'on meure tous les deux. Enfin, en tout cas, dans sa grande bonté et l'amour qu'il a pour elle, il préfère la sauver. Donc, il va la ramener tant bien que mal jusqu'à cet œuf. Sauf que, entre les deux, il va rencontrer des soldats, des Nisorai, et il va devoir se battre un peu avec eux pour justement pouvoir déposer Léa sous la protection de l'œuf. Et je me souviens plus du coup, Koban, qui le tue?
Eh ben c'est Paikan.
C'est Paikan qui le tue.
Parce que au final, il supporte pas le fait que ce soit Koban qui prenne sa place à côté d'Elea.
Ah oui.
Et donc effectivement, il défend l'œuf face à Enisorai. C'est d'ailleurs il est blessé à ce moment-là. Et donc il décide enfin sur un coup de sang, on va dire, d'assommer Koban. Il tombe raide mort. Donc il évacue son corps et en fait il prend la place à côté d'Eléa dans l'œuf, dans la cryogénisation.
Oui.
Et donc c'est là, donc Simon se rend compte en partageant les souvenirs d'Eléa que l'être à côté d'elle, c'est pas Koban, en réalité c'est Paikan. Sauf que...
Sauf que oui, pendant qu'elle était en train de raconter toute son histoire, en fait, ils ont effectivement commencé à décongeler l'homme qui pensait être Koban. Et sauf que comme il est en plus mauvais état qu'Eléa, et ben il fallait lui faire une transfusion sanguine pour que son réveil soit plus facile. Donc Eléa, comme ils sont de la même, comment dire,
Groupe, enfin oui, groupe sanguin, j'allais dire, groupe de la même espèce.
oui, voilà, de la même espèce, et ben du coup il lui demande si elle accepte de faire une transfusion pour l'aider, quoi. Donc Eléa dit oui. Donc pendant qu'elle raconte tout ça, elle fait une transfusion avec Koban. Sauf que
En fait,
qu'est-ce qu'elle fait?
elle va ingérer ce qu'ils appellent la graine noire. C'est une capsule équivalent au cyanure, quoi, poison.
Oui.
Et parce que en fait, elle en veut beaucoup à Koban de l'avoir choisi et de l'avoir séparé de Paikan. Et donc, elle va vouloir. Elle fait que répéter de toute façon dans le livre que sans Paikan, elle est plus rien. Elle n'arrive pas à passer au-dessus de ce choc-là. Donc, elle va décider de s'empoisonner elle et d'empoisonner ce
Bah,
qu'elle pense être Koban.
Coban.
Donc, finalement, ils vont mourir tous les deux dans l'œuf.
Eh oui. Et par contre, Simon, du coup, qui a compris que finalement c'était Paikan, il va décider de ne pas dire à Eléa qu'elle s'est trompée et qu'en fait elle a tué l'amour de sa vie et que c'était pas Coban, quoi. Donc déjà, il lui offre quand même cette dernière, comment dire, parce que là, du coup, elle l'aurait perdu deux fois. Donc il choisit de pas lui dire. Mais malheureusement, du coup, tous les espoirs qu'avait la nation sur comprendre plein de choses sur l'intériorité de leur monde, s'éteint avec ce couple.
Et d'autant plus que donc autant la mission était protégée, les scientifiques s'étaient un peu détachés des gouvernements et des politiques en menant leur propre protection, en édictant leurs propres règles, mais ils se rendent compte qu'il y a un espion qui a infiltré la base et qui a donc diffusé quelque part proche hein, de l'Antarctique, qui a diffusé tout ce qu'ils avaient réussi à interpréter sur les objets, sur la langue, sur le fameux théorème qui permet de convertir l'énergie universelle. Toutes ces informations ont été piratées, que la traductrice a été piégée.
Oui, ils lui ont mis une bombe pour la détruire.
C'est ça. Donc il y a aussi encore une donc après la mort d'Eléa et Paikan, qui referment l'œuf en mode tombeau. Mais il y a quand même cette course-là, parce qu'ils se disent, mais alors cet espion-là, à qui il va donner ces informations? Et en fait, on sent bien que ça va déterminer l'avenir du monde, selon à quel pays il va le donner. Ça, les forces vont complètement être déstabilisées. Et au final, le petit plan des espions, est-ce qu'il va marcher ou pas?
Il me semble que non, ça marche pas, mais je me souviens plus exactement pourquoi.
Et on ne sait pas en fait, on sait qui est l'espion, c'est Lukos.
Oui, et ça, je me souviens, ouais. C'est Luco, c'est celui qui a fait la traductrice.
Ouais.
Donc c'est un peu con, lui, là.
Oui. Enfin, bref. Mais on sait pas pour qui il travaille.
Non, et on le saura pas du tout.
Et on saura pas, puisque bah, alors, il a réussi effectivement à émettre ce signal à un petit sous-marin où il y avait voilà, deux pélos à l'intérieur. Et donc, sauf que le blocus autour de l'Antarctique fait qu'ils passeront pas et que
ah oui, vont, il meurt dans le sous-marin.
Il meurt dans le sous-marin, c'est vrai.
Donc, toute cette enquête...
Finalement, toute cette découverte pour ben, rien. Enfin, il n'y a rien qui reste de... de la civilisation passée, on peut plus décrypter la langue, on peut plus avoir accès à leur technologie, ni bah, avoir accès à l'intelligence de ces personnes-là. Il n'y a plus rien, donc un peu une découverte dans l'eau.
Qu'est-ce que tu as pensé
de ce livre alors peut-être le, pour l'instant de la saison le plus difficile à lire tant par l'effet surréaliste que l'écriture qui a un peu passé.
Oui, c'est clair que comme on l'a dit, il y a quand même beaucoup de remarques misogynes, racistes. Bon, voilà, ça rend des fois un peu la lecture difficile, mais par contre, le sujet de trouver des gens antérieurs à notre civilisation, ça, j'ai trouvé que c'était bien.
Oui.
Parce que...
ça fait écho à plein de mythes, un peu Atlantide.
Oui.
Ça repose quand même sur des... c'est pas totalement tout inventé. Enfin, je trouve que ça repose sur des mythes dont on connaît et qui sont un peu voilà, extrapolés, mais... c'est vrai que ça reste accessible, enfin, l'histoire reste accessible hormis effectivement les... tout ce qui est autour,
oui, les petits égarements,
mais ça part quand même de quelque chose de connu, entre guillemets.
Oui, et puis après il y a aussi, ça on l'a vite, enfin on avait remarqué avec Justine, mais du coup le... l'histoire d'Elea et Pycan, c'est vraiment ben, Roméo et Juliette, quoi.
Ouais, clairement.
Donc c'est un peu, voilà, Roméo et Juliette version science-fiction.
Revue, ouais. Je trouve que c'est plein de mythes revisités et mis à la sauce science-fiction.
Ouais, ouais. Mais après, c'est plutôt bien amené. Et moi, c'est vrai qu'à ma première lecture, je me demandais vraiment qu'est-ce qu'ils allaient trouver sous la glace. Et surtout, je m'attendais pas au plot twist que finalement, ce ne soit pas Coban à côté d'elle.
C'est vrai. À aucun moment, tu te dis, ça va être, ça va être quelqu'un d'autre.
Non, non. Mm. Et le fait qu'elle empoisonne son sang pour se dire, bah, franchement, je me fous en l'air, je veux pas rester avec ce vieux-là. Et que tu dis, putain, en fait, mais non, c'était l'amour de sa vie. Et là, j'étais là en mode, ah, ça, c'est bien trouvé.
Ouais, pour la fin, c'était chouette.
Ouais,
mais je sais pas si t'as remarqué, mais tout au long de la lecture, il arrive à maintenir le suspense.
Oui.
Surtout sur les débuts, on te dit, bah, y a quelque chose sous la glace, il y a quelque chose sous la glace. Et juste à la fin, on va te dire, bon bah c'est ça. Et à chaque chapitre, j'ai l'impression que c'était la même, en tout cas au début,
oui,
c'était la même sauce un peu.
Il y a vraiment...
On va te tenir jusqu'au dernier mot du chapitre.
Ouais, il tient très très bien en haleine. Et puis c'est vraiment, il y a une bonne tension d'écriture dans le livre. Et comme je le disais tout à l'heure, comme ils sont obligés d'avoir l'aval des nations avant de faire la moindre chose... et qu'ils hésitent parce que du coup c'est des choses qui sont, c'est la première fois en fait qu'ils découvrent une civilisation sous la glace, ça pose beaucoup de questions et du coup il y a cette un peu cette ferveur de ah bah je sais pas qu'est-ce qu'on fait, ils sont excités mais en même temps ils ont peur de se louper, etc. Et ça dans le livre c'est bien retranscrit, le fait que bah effectivement quand tu fais une découverte scientifique importante, et ben voilà, des fois faut que tu fasses des choix, tu sais pas trop si c'est bien ce que tu fais, tu dois faire des tests, ça marche pas. Donc ce côté scientifique était plutôt bien écrit pour le coup.
Ouais, moi je trouvais ça même assez moderne au niveau de... Enfin, il y a plein de choses qui font dire dans ce roman que c'est au-delà d'être de la science-fiction, c'est vraiment un roman d'anticipation. Mm. On disait il a été fini d'écrire en mars 68 et voilà ce qu'on a connu, les événements en France en mai avec la révolte des étudiants, la répression de la police. Enfin, c'est très drôle de retrouver ça dans le livre. Et au-delà de ça, il y a plein de choses sur la presse, le journalisme.
Oui.
Sur les tensions politiques entre les États. C'est à la fois le reflet, je pense, le reflet de son époque, mais ça amorce aussi d'autres choses. Avec l'ONU, tu te dis, aujourd'hui, par exemple, on découvrirait une autre civilisation. Ce bouquin, il pourrait marcher sur les, tu vois, comment les pays, les États, versus les scientifiques, un peu comment tout ce gentil petit monde pourrait collaborer ou pas.
Oui, parce qu'il y aura toujours des conflits d'intérêts, malheureusement. Mais là, c'est vrai que c'était bien que, au moins, voilà, ils se sont quand même regroupés tous ensemble pour mettre leurs efforts en commun. Et à un moment, ils ont même fait appel à des grosses fortunes extérieures pour, voilà, aider
C'est vrai.
encore. Enfin, du coup, c'était plutôt bien tourné.
Ouais, il y a plein de sujets. Au final, c'est assez riche dans les questionnements. Mais alors, j'ai bien aimé. Je sais pas si je le relirai, mais c'était quand même intéressant. J'ai trouvé hein, quand même intéressant.
Bah, en première lecture, moi je trouve que t'es quand même bien happé par vraiment le côté qu'est-ce qu'on va trouver, comment ça va se passer, etc. Là, pour l'avoir relu, j'ai plus vu les défauts d'écriture entre guillemets de voilà qui sont liés à son époque ou à l'auteur, parce que peut-être que l'auteur est vraiment foncièrement raciste.
Ouais, j'ai pas cherché.
J'ai pas trop cherché non plus, mais bon voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une lecture, comme on disait, qui passerait pas. Enfin, il y a des phrases vraiment, c'est pas possible quoi. T'es là, tu lèves les yeux aussi, tu te dis, oh là là. Mais voilà, ça soulève plein de sujets intéressants sur les découvertes scientifiques. Et là, le fait que ça se passe du coup en Arctique aussi,
Oui, en
c'est
partie, c'est vrai.
intéressant. En tout cas, voilà, c'était plutôt une bonne découverte. Et puis.
Mais on vous invite à vous faire votre propre avis
Oui,
si vous
voilà,
avez.
si vous avez déjà lu et que vous écoutez le podcast, ben, n'hésitez pas à nous faire part en fait de ce que vous en avez pensé. Et puis, ben, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.
À bientôt.
Salut!